Tarazza ne lui avait pas révélé ses intentions concernant le Gola, mais le fait d'y participer lui donnait accès à une trame en voie de formation. La structure était incomplète, mais les lignes principales commençaient à se dégager. Génération après génération, les sœurs avaient conclu le même marché avec les Tleilaxu. Elles leur achetaient le Gola Idaho qu'elles formaient ici, sur Gameux, jusqu'à ce qu'on l'assassine. Le Bene Gesserit attendait son moment. C'était un jeu lourd de conséquences qui venait, semblait-il, d'atteindre son point culminant, simplement parce qu'une petite fille capable de commander au vert venait de faire son apparition sur Rakis. Gameux elle-même faisait partie de la trame. La planète était couverte de signes caladaniens. La subtilité danienne émergeait au-dessus des anciennes manières plus brutales. Ce n'était pas qu'une population qui était issue du sanctuaire danien où la grand-mère du tyran, Dame Jessica, avait achevé sa vie. Teg avait vu les signes découverts, ou secrets, dès qu'il avait effectué sa première tournée de reconnaissance sur Gameux. La richesse. Les signes étaient là pour qui voulait les voir. Elles se coulaient dans leur univers comme une amibe à la recherche d'un espace capable de la loger. Il y avait sur Gameux une richesse venue de la dispersion. Teg en était certain. Une richesse si grande que rares étaient ceux qui soupçonnaient ou étaient capables d'imaginer toute son ampleur et toute sa puissance. Il s'immobilisa brusquement. Certains détails dans son environnement immédiat exigeaient toute son attention. Devant lui s'étendait un passage de roches nues et exposées, avec ses repères implantés par Patrine dans sa mémoire. De tout l'itinéraire, c'était probablement le secteur le plus dangereux à traverser.
« Pas de grotte ni de végétation où vous dissimuler en cas d'attaque. Gardez le cache-vie à portée de la main. »
Teg sortit la couverture écran de son sac et la mit sur son bras. Il fit signe aux autres de reprendre la marche. Le tissu noir du cache-vie crissait contre son corps à chacun de ses mouvements. Lucille était en train de prendre de plus en plus d'importance, se dit-il. Elle aspirait à mettre un titre devant son nom, Dame Lucille. Cela devait sonner agréablement à ses oreilles. Quelques dames commençaient à réapparaître parmi les révérendes mères depuis que les grandes maisons émergeaient de la longue période d'obscurité que leur avait imposée le tyran avec son sentier d'or. Lucille, l'imprégnatrice séductrice. Toutes les femmes comme elle, au Bene Gesserit, étaient adeptes des techniques sexuelles. Teg avait été informé de l'existence de ces techniques par sa propre mère, qu'il avait envoyé très jeune chez des femmes du voisinage soigneusement sélectionnées pour qu'il apprenne à reconnaître les signes, aussi bien en lui-même que chez les femmes. Un tel enseignement était strictement interdit en dehors du chapitre, mais la mère de Teg faisait partie des hérétiques du Bene Gesserit. « Tu en auras besoin un jour, Miles. » Sans aucun doute, elle possédait un certain talent de prescience. Elle l'avait définitivement armée contre les imprégnatrices, entraînée à amplifier les signaux orgastiques pour obtenir la fixation des liens inconscients entre mâle et femelle. Lucille et Duncan. Une imprégnation d'elle équivaudrait à une imprégnation d'Audrade. Les morceaux du puzzle commençaient à se mettre en place. Mais cette fille de Rakis, Lucille espérait-elle, une fois qu'elle aurait imprégné Duncan, lui enseigner ses techniques de séduction pour qu'il subjugue à son tour celle qui commandait au grand vert? Encore trop peu de données pour une computation primaire. Il s'arrêta quand ils eurent franchi le dangereux passage à découvert. Il remit le cache-vie en place et referma son sac tandis que Duncan et Lucy l'attendaient en silence. Il soupira. Cette couverture écran le préoccupait. Elle n'avait pas le pouvoir de déflexion d'un véritable écran de combat. Par contre, si le rayon d'un laser la touchait, le brasier qui en résulterait risquait de leur être fatal. Un jouet dangereux. Teg s'était toujours méfié de ces inventions compliquées. Il préférait compter sur son intelligence, ses réflexes et les cinq préceptes du Bene Gesserit que lui avait enseigné sa mère. N'utilise une machine que si elle est absolument nécessaire pour amplifier le corps, disait l'un de ses préceptes.
Pourquoi nous arrêtons-nous? Demanda Lucille.
Pour écouter la nuit, répondit Teg.
Duncan, le visage spectral à la lumière des étoiles filtrées par les grands arbres, observait tranquillement le Bachar. Ses traits avaient pour lui quelque chose de rassurant, comme s'ils étaient gravés quelque part dans une mémoire inaccessible. « Je peux faire confiance à cet homme », se disait le jeune Gola. Lucille se demandait si la véritable raison de cette halte n'était pas que le vieux corps recru de Teg criait merci, mais elle ne pouvait se résoudre à exprimer ce doute à haute voix. Teg disait que son plan de fuite incluait un moyen de leur faire gagner Rakis. Très bien. C'était la seule chose qui comptait pour le moment. Par déduction, elle était déjà arrivée à la conclusion que l'endroit sûr où les conduisait Teg ne pouvait être qu'un non-vaisseau ou un non-espace quelconque. Rien de moins ne pouvait suffire. Et d'après certaines allusions qu'avait laissé échapper Teg, la clé de tout était Patrine. Lucille, la première, avait compris de quelle manière Patrine allait payer leur fuite. Patrine était le chaînon le plus faible. Il restait derrière à la portée de Shuangyu. La capture du leurre était inévitable. Il fallait être idiot pour supposer qu'une révérende mère ayant les pouvoirs de Shuangyu aurait du mal à arracher un secret à un simple mâle. Shuangyu n'aurait même pas besoin d'avoir recours à des moyens de persuasion compliqués. Les subtilités de la voix, ainsi que certaines méthodes dont le Bene Gesserit avait toujours le monopole, comme la boîte à douleur ou les pressions nodales, suffiraient amplement. Dans ces conditions, la seule forme que pouvait prendre la loyauté de Patrine était claire. Comment Teg avait-il pu être aussi aveugle? L'amour. Ce lien puissant qui existait de longue date entre les deux hommes. Shuangyu agirait vite et sans ménagement. Patrine le savait, Teg aussi, mais il avait refusé de le voir. La voix de Duncan l'attira soudain des réflexions dans lesquelles elle était plongée.
« Un orni, derrière nous !»« Vite !»
Teg avait tiré la couverture écran de son sac et l'avait déployée au-dessus d'eux. Accroupi dans l'obscurité imprégnée des odeurs de la terre, ils écoutèrent l'ornithoptère qui passait au-dessus d'eux sans s'arrêter. Quand ils furent certains qu'ils n'avaient pas été repérés, ils reprirent, guidés par Teg, l'itinéraire mémoire de Patrine.
« C'était un appareil de reconnaissance, » leur dit Lucille. « Il commence à se douter. Ou bien alors, Patrine ?»«
Économisez vos forces, vous en aurez besoin, » fit Teg.
Elle n'insista pas. Il savait comme elle que Patrine était mort. Toute discussion à ce sujet était parfaitement inutile. Ce n'est pas un mentat pour rien. Ses talents allaient même plus loin que ceux d'un mentat. Sa mère était une révérende mère, et elle lui avait enseigné des choses qui dépassaient les limites autorisées avant que le Bene Gesserit ne le prenne officiellement en main. Le Gola n'était pas le seul ici à disposer de ressources inconnues. L'itinéraire qu'il suivait était un sentier d'animaux qui serpentait au flanc d'une colline escarpée que couvrait une forêt dense. La lumière des étoiles ne perçait pas les frondaisons épaisses. Seule l'extraordinaire mémoire du Mentat les maintenait sur la piste. Le sol était spongieux sous les pieds de Lucille. Elle se guidait uniquement à l'oreille, sur le pas de Teg.
Duncan est bien silencieux, se disait-elle. Comme refermé sur lui-même.
Il obéissait aux ordres. Il suivait Teg sans discuter, mais elle sentait que cette obéissance avait le caractère d'une stratégie momentanée. Il ne disait pas ce qu'il pensait. Il suivait Teg parce que cela lui convenait pour l'instant. La révolte de Shuangyu avait implanté en lui le germe d'une farouche indépendance. Et qu'est-ce que les Tleilaxu de leur côté avaient implanté dans ce Gola? Teg s'arrêta au premier endroit plat sous les grands arbres pour reprendre son souffle. Lucille l'entendit respirer bruyamment. Cela lui rappela que le Mentat était vieux, bien trop vieux pour ce genre d'exercice. Elle lui demanda doucement
« Ça va, Miles ?»«
Si ça ne va pas, je vous le ferai savoir. »«
C'est encore loin ?» demanda Duncan.
« Plus très loin à présent. »
Ils reprirent leur marche dans la nuit.
« Pressons le pas, » fit Teg au bout d'un moment. « Nous entamons le dernier tronçon. »
Maintenant qu'il avait accepté la mort de Patrine comme un fait certain, les pensées de Teg revenaient sans cesse, comme l'aiguille aimantée d'une boussole, sur Shuangyu et ce qu'elle devait se dire. Le monde devait lui donner l'impression de s'écrouler autour d'elle. Les recherches duraient depuis 4 jours et 4 nuits. des gens qui pouvaient échapper ainsi à une révérende mère devaient être théoriquement capables de n'importe quoi. Naturellement, les fugitifs avaient dû quitter la planète à cette heure. Sans doute un non-vaisseau. À moins que... Le raisonnement de Shuang Yu devait être rempli d'à moins que... Patrine était le maillon fragile, mais on lui avait appris à ne jamais laisser subsister de maillon fragile. Et celui qui lui avait appris cela était un spécialiste, Miles Tegg. Tegg se sécha les yeux en secouant la tête d'un mouvement brusque. Les nécessités immédiates demandaient un fond d'honnêteté qu'il ne pouvait pas éluder. Tegg n'avait jamais su mentir, y compris à lui-même. Très tôt au cours de sa formation de mentat, il s'était aperçu que sa mère et toutes celles qui s'occupaient de près de son éducation avaient profondément implanté en lui le sens de l'honnêteté personnelle. L'adhésion à un code d'honneur. Ce code, tel qu'il pouvait l'identifier en lui, avait de quoi attirer toute son attention fascinée. Il débutait par la constatation que les humains n'avaient pas tous été créés égaux, qu'ils possédaient des aptitudes innées différentes et traversaient des événements différents au cours de leur existence. Tout cela produisait des gens de talents variés et de valeurs inégales. Pour obéir à ce code, Tegg s'était rendu compte très tôt qu'il lui fallait se situer avec précision dans le flux des hiérarchies visibles et accepter l'idée que le moment viendrait peut-être où il ne pourrait pas évoluer davantage. Ce conditionnement était profond. De toute évidence, il était lié à quelque chose d'inhérent à son humanité. Il dictait avec une force invincible les limites du comportement permis à ceux qui étaient au-dessus de lui, comme à ceux qui étaient au-dessous dans la pyramide hiérarchique. Et la clé de l'échange est la loyauté. La loyauté circulait de haut en bas et de bas en haut, en se fixant partout où elle trouvait un point d'ancrage méritoire. Ainsi, Tegg savait qu'il avait suscité lui-même de telles loyautés, et il ne doutait pas que Taratza le soutiendrait dans toutes les situations, sauf une, celle où le sacrifice de sa personne deviendrait nécessaire à la survie de l'ordre. Ce qui en soi n'était que juste. Leur loyauté à tous se résumait finalement à cela. « Je suis le bachar de Taratza », c'est ce que dit le code. Et ce même code avait tué Patrine. « J'espère que tu n'as pas souffert, mon vieux compagnon. » Une fois de plus, Tegg s'arrêta sous les grands arbres. Sortant son poignard de combat de l'étui de sa botte, il grava une petite marque dans le tronc le plus proche. « Que faites-vous ? » lui demanda Lucille. « C'est un signe secret. Seuls certains de mes hommes que j'ai entraînés spécialement savent le reconnaître. Et Taratza aussi, bien sûr. »«
Mais pourquoi ?»«
Je vous l'expliquerai plus tard. » Il fit quelques pas, s'arrêta devant un autre arbre où il grava le même signe. Cela pouvait ressembler, au milieu de cette forêt vierge, à n'importe quelle marque faite par un animal sauvage. Tandis qu'ils poursuivaient leur route, Tegg s'aperçut qu'il avait déjà pris sa décision à propos de Lucille. Il ne pouvait la laisser faire ce qu'elle voulait de Duncan. Toutes ses projections mentales sur la sécurité et la santé mentale du Gola le faisaient arriver aux mêmes conclusions. L'éveil des souvenirs de la période pré-Gola de Duncan devait avoir la priorité sur toute imprégnation effectuée par Lucille. Tegg n'ignorait pas qu'il serait difficile de la contrecarrer. Il fallait être, pour tromper une révérende mère, meilleur menteur qu'il n'avait jamais su l'être. La chose devrait paraître accidentelle, due à la seule logique des circonstances. Lucille ne devrait jamais se douter qu'il s'opposait à elle. Tegg ne se faisait guère d'illusions sur les chances qu'il aurait face à une révérende mère déchaînée. Mieux vaudrait la tuer. Cela, il se sentait capable de le faire. Mais les conséquences. Jamais il ne pourrait convaincre Taratza que c'était pour respecter ses ordres qu'il avait dû recourir à une mesure si sanglante. Non, il faudrait qu'il attende son heure. Qu'il sache observer et écouter afin d'agir au bon moment. Ils étaient arrivés à l'orée d'une petite clairière au fond de laquelle se dressait une muraille de roches volcaniques. À la lumière des étoiles, des amas de broussailles et des buissons d'épineux formaient des taches sombres contre la roche. Tegg repéra la trouée plus noire entre deux buissons. « À partir d'ici, il faut ramper, » dit-il.
« Je sens une odeur de brûlé, » fit Lucille.
« C'est ici que le leurre s'est arrêté, » expliqua Tegg. Un peu plus loin sur notre gauche, il a laissé des traces simulant celles que peut laisser au sol le départ d'un non-vaisseau. L'exclamation étouffée de Lucille fut nettement audible. Quelle audace! S'il venait à l'idée de Shuang Yu de mettre un pression sur la piste de Duncan, car lui seul était repérable, Teg et elle étant protégés comme tous les descendants de Siona, toutes les marques confirmeraient qu'ils étaient bien arrivés jusqu'ici et qu'ils avaient quitté la planète à bord d'un non-vaisseau. À condition que...
Où nous emmenez-vous maintenant?
Demanda-t-elle.
Il s'agit d'un non-globe Harkonnen, expliqua Teg. Il est ici depuis des millénaires, et il n'attend que nous.